Je vous invite à ouvrir votre Bible maintenant dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, et nous allons lire au chapitre 8, l'épître aux Romains. Nous avons eu une rencontre avec les frères hier matin, et nous avons parlé de la providence de Dieu. La question que nous avons vue dans le catéchisme ce matin nous parle aussi de la providence de Dieu quand il dit que Dieu maintient en existence et gouverne toutes choses de façon à faire toutes choses répondre à sa volonté. Il s'agit là de la providence de Dieu. Et il y a un verset dans ce chapitre 8 de l'épître aux Romains qui est un encouragement pour les chrétiens, qui est vraiment une assurance que Dieu donne aux croyants et qui doit être un soutien particulier dans les temps difficiles, dans les temps incertains. Comme on pourrait dire que c'est une certitude dans les temps incertains. Et vous connaissez bien ce verset, c'est le verset 28, Romains 8, verset 28, où l'apôtre Paul dit, pour encourager les chrétiens, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est probablement l'un des versets les plus puissants pour soutenir les enfants de Dieu. Une connaissance importante à avoir. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peut-être que nous avons déjà même utilisé ces versets pour parler à des gens, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est découragé, nous disons ça. C'est pas toujours sage de le faire, parce que il faut pouvoir utiliser la parole de Dieu à propos. Mais c'est vrai que c'est une réalité devant laquelle l'apôtre Paul met les chrétiens pour les encourager. Il avait dit déjà au verset 26 que nous ne savons pas même ce qu'il convient de dire quand nous prions. D'accord? Et que l'Esprit de Dieu, bien qu'il va nous assister dans notre faiblesse et qu'il va intercéder pour nous. Et c'est intéressant de voir qu'il dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, c'est-à-dire dans la situation présente. On est troublé, on ne sait pas. Et puis, quelques versets plus loin, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons prier que Dieu nous aide dans l'étude de sa parole et puis qu'il nous dirige. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore parce que c'est toi qui nous as conduits ici. Et oui, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ce qu'il convient de demander, ce qu'il convient de faire, et nous avons besoin que tu nous assistes par ton Esprit Saint. Que ton Esprit illumine nos cœurs et nous fasse comprendre ta parole. Et que ton Esprit incline aussi nos cœurs dans l'obéissance à ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Alors nous allons rester sur ce verset ce matin. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et voir en quoi cela peut être un encouragement pour nous. D'abord, nous voulons considérer, on peut appeler ça comme une promesse, comme une assurance, à qui cela est destiné. Quels sont les bénéficiaires de cette assurance-là? Si nous regardons à la fin du verset, il est dit que c'est pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc les bénéficiaires ici sont les chrétiens. C'est intéressant parce qu'on ne peut pas prendre des versets de la Bible et puis les asséner à tout le monde et dire... Voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, toute chose concourt au bien, tout simplement. Le texte ne dit pas que toute chose concourt au bien des hommes, mais seulement de ceux qui aime Dieu. Autrement dit, la promesse ne peut être appliquée ici qu'aux chrétiens et aux enfants de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui est racheté par Jésus-Christ. Et les versets 29 et 30 précisent bien sûr qui sont ceux qui aiment Dieu. Il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » On comprend que ce sont ceux qui ont été justifiés et qui sont destinés à la glorification, qui sont concernés dans ce que l'apôtre Paul donne ici comme encouragement. Un encouragement particulier au temps difficile. Ceux qui aiment Dieu, bien sûr, ne décrit pas ici une activité. C'est pas « J'aime Dieu aujourd'hui, j'aime Dieu beaucoup aujourd'hui, donc toutes choses concourent à mon bien, et puis j'aime Dieu un peu moins bien demain, et donc les choses ne concourent pas à mon bien. » Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Hein. Il donne ici un principe qui est valable pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Indépendamment de leur degré d'amour ou de l'intensité de leur amour. Hein. On peut... Voilà. C'est pas ce qu'il est en train. Il est en train de dire que ceux qui sont connus par Dieu, ceux qui aiment Dieu, d'accord, parce que c'est ça qui caractérise un chrétien avant tout, ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est qu'il aime Dieu. Hein? Avant d'être un enfant de Dieu, on n'aime pas Dieu. Hein? L'homme naturel n'aime pas Dieu. Il y a peut-être des gens qui peuvent dire, vous pouvez entendre des gens dire, mais moi j'ai toujours aimé Dieu. C'est pas ce que la Bible dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Pour aimer Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui nous habite et par lequel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 et au verset 5. Il dit que c'est l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'accord? Et donc, on ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas un enfant de Dieu. Naturellement, l'homme n'aime pas Dieu. Rappelez-vous la discussion que Jésus a eue avec ses disciples, pas avec ses disciples, avec les pharisiens, pardon, dans l'évangile de Jean, je vais vous lire ça, et il dit au chapitre 8, il est en discussion avec les pharisiens, et il leur dit ici, les pharisiens disent, voilà, nous sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes de la descendance d'Abraham, etc. Et au verset 42, Jésus dit, si Dieu était votre père, si vous étiez des enfants de Dieu, vous m'aimeriez. Voilà, il dit, l'amour pour Dieu et pour Jésus-Christ est attaché au fait d'avoir Dieu comme père, véritablement, d'être un enfant de Dieu. Et il est en train de le dire, vous ne m'aimez pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et c'est la particularité même des enfants de Dieu d'aimer Dieu. Hein, parce que Dieu donne son esprit qui nous permet de crier même Abba, Père, et d'aimer notre Dieu ici. Donc l'amour, hein, si vous, on ne prend pas le temps de le lire, mais l'amour pour Dieu caractérise vraiment ceux qui sont des enfants de Dieu. Donc quand Paul dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », il parle d'une sphère particulière de personnes. Il parle des enfants de Dieu pour les encourager dans leur marche. Et il dit ceci, il dit aussi « nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Paul encourage les chrétiens ici et il leur dit c'est quelque chose que nous savons, c'est pas quelque chose que nous ressentons. C'est pas écrit nous ressentons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne se ressent pas, ça. Ça ne se ressent pas. Et bien souvent c'est le contraire. Hein. que l'on peut ressentir dans son corps et dans son être lorsque les difficultés sont là. Mais il dit, voilà, que la foi chrétienne requiert notre pensée et notre intelligence. Voilà comment est-ce que les bénéficiaires de cette promesse vont pouvoir se l'approprier. C'est en la connaissant dans leur esprit. L'esprit a besoin d'être formaté par les connaissances des réalités spirituelles, des réalités bibliques. La foi chrétienne donc requiert notre intelligence et pas notre feeling. C'est pas une question de feeling. Le feeling est très en vogue de nos jours, n'est-ce pas? On veut ressentir les choses, hein. On veut se sentir bien. Je vais dans cette église parce que je me sens bien. Je demandais ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que tu... Eh bien, là, je me sens bien. Okay. Et c'est ça qui détermine parfois nos choix. Est-ce que je me sens bien? J'ai des gens qui apprécient. Voilà, j'ai une sensation de confort et de bien-être. Et de bien-être ici. Mais l'évangile n'est pas une question de feeling. On interpelle parfois les gens depuis le pupitre en disant « Est-ce que vous vous sentez bien ce matin ?» Ah, vous êtes là pour louer le Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez bien? Mais c'est pas ce que l'évangile, soit quoi l'évangile nous appelle. L'évangile nous appelle à connaître des vérités. Et l'Écriture insiste sur les choses que le croyant doit savoir. Vous pouvez taper si vous avez une concordance. Par exemple, nous savons sur votre concordance. Vous allez voir le nombre de fois où il est question de la certitude, de la connaissance que le chrétien doit avoir. Alors je vous lis juste quelques-unes. 1 Jean 3, verset 14 dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Pas « Nous ressentons que nous sommes passés de la mort à la vie. » « Nous expérimentons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Mais nous le savons parce que l'Écriture le dit. C'est une connaissance. C'est une connaissance. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul dit « Nous savons en effet que si cette tente, il parle de son corps, si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, ça peut être l'expérience sensorielle visible de la dégradation du corps par la maladie, par la fatigue, par la persécution, par les afflictions. Il dit, si nous voyons cela, nous voyons que cette tente s'est détruite, eh bien il dit, nous savons que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc c'est la connaissance d'une réalité spirituelle et pas simplement la sensation ou ce que je peux voir dans mon corps comme dégradation qui est importante ici. Il dit c'est ce que l'on sait sur les réalités fondamentales. Donc souvenons-nous de l'apôtre Paul quand il corrigeait l'église de Corinthe. On a étudié cette lettre pendant 2 ans, je pense, presque. Hein. Et l'apôtre Paul souvent dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que... » 10 fois. 10 fois. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que celui qui s'associe à une prostituée devient un seul corps avec elle ?» Et ainsi de suite, hein, n'est-ce pas ? Tout le temps, il les rappelait avec des connaissances. Vous devez savoir ces choses. L'évangile repose sur des connaissances que l'on doit avoir. Et ce sont ces connaissances qui doivent formater nos pensées, nos convictions, et pas ce que nous ressentons. Et Paul sait que ces chrétiens peuvent connaître des difficultés. Il dit, regardez au chapitre 5, verset 3 de Romains, il dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc il parle déjà des douleurs, des afflictions qu'il a lui-même dans sa vie. Et dans le chapitre 8 et au verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Mais il parle de souffrances du temps présent. Ils vivent dans situations difficile. Et Paul dit ce qu'il faut dans ce cadre-là, c'est savoir ce qui est vrai. Savoir les réalités spirituelles. Et il dit, nous savons que, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Jésus avait dit, rappelez-vous, hein, à ces juifs qui l'écoutaient dans Jean chapitre 8 et au verset 31, la Bible dit qu'il dit, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous, quoi, connaîtrez. Vous sentirez la vérité? Non, c'est quelque chose qui parle. Non, il dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, donc dans du texte écrit, quoi. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira de l'erreur. Ce n'est pas la sensation qui nous affranchit de l'erreur. Ce n'est pas l'expérience que je vis qui m'affranchit de l'erreur et du reste. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous savons, dit Paul, en tant que croyants, quand il dit nous, c'est nous les croyants, nous savons, et on le sait parce que l'Écriture le dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc voilà, quelle connaissance, bien sûr, soutient l'enfant de Dieu quand les événements fâcheux le touche, la connaissance concernant la manière avec laquelle les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, ce sont les bénéficiaires vraiment de cette assurance, les croyants, et comment les croyants doivent considérer cela par la connaissance que Dieu leur donne dans l'Écriture. Mais quels sont les termes de cette assurance? On peut dire que c'est une assurance que Dieu donne aux croyants, mais quels sont les termes de cette assurance? Premièrement, ici, on peut souligner la coopération de toutes choses. La coopération de toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quand l'apôtre Paul dit toutes choses, on pourrait se dire ici, dans un premier temps, le contexte immédiat, c'est celui de la souffrance et des afflictions. Mais on peut l'étendre sans problème à toutes choses, soit bonnes, soit mauvaises. Le bien comme le mal, les choses heureuses comme les choses malheureuses, le temple bien chauffé comme le temple pas chauffé, et même le péché, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est intéressant de considérer cela parce que Paul dit, nous savons ça, nous devons savoir si on ne sait pas, que tout ce qui arrive dans la vie du croyant, tout, sans exception, concourt à son bien. Est-ce que nous croyons vraiment, vraiment cela? Quand on voit la force avec laquelle on essaye de faire échapper toute difficulté, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parfois, mais il faut être empreint de cette pensée que toute chose, soit bien, soit mal, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'on les ressente comme des choses bonnes, qu'on les ressente comme des choses mauvaises, agréables et pas agréables, facilement acceptables ou pas facilement acceptables, eh bien, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul ne dit pas ici que les choses mauvaises sont bonnes. Il ne dit pas ça. Ce qui est mauvais est mauvais. Et ce qui est bon. Et voilà, c'est deux catégories de choses différentes. Il ne dit pas que les choses mauvaises deviennent bonnes et ainsi elles contribuent au bien du croyant. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que les choses sont ensemble, d'accord, et elles sont de nature même différente, parfois même opposée, mais elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le sens, c'est que ces choses travaillent ensemble. Dans la traduction d'Arby, il dit, toutes les choses travaillent ensemble. D'accord? C'est pas qu'elles finissent par concourir, etc. Elles travaillent ensemble. Et ça n'est pas les choses par, ce ne sont pas les choses par elles-mêmes qui travaillent ensemble. C'est pas un truc mauvais, un truc bien ici, qui finalement s'associent, on ne sait trop comment, et puis finissent par aboutir au bien de ce qui est mieux. C'est pas les choses en elles-mêmes qui concourent au bien de ce qui est mieux. On sous-entend bien, et d'autres, et certaines traductions le disent, qu'il y a Dieu travaille avec les choses pour les faire concourir au bien de ses enfants. Autrement dit, que Dieu est à l'œuvre derrière tout ce qui se passe, toutes les circonstances qui se passent dans le monde entier, ce que la Bible dit, et particulièrement dans la vie de ses enfants, pour faire concourir les choses à leur bien. Tout, absolument tout. C'est ça la vérité qui est affirmée ici. Dieu œuvre de manière souveraine, sage avec tous les événements, et il les dose. Il les dose avec harmonie pour atteindre le bien dans la vie de ses enfants. Alors comment Dieu fait-il cela? Surtout, on veut bien accepter ça quand les choses sont agréables, n'est-ce pas? Dire oui, le Seigneur est en train de... Et puis quand c'est une chose qui est moins agréable, quand c'est un malheur, quand c'est la souffrance, quand c'est la maladie, voilà, eh bien, on pense un peu différemment. Eh bien, Dieu permet au mal d'atteindre ses enfants. Alors, je sais qu'il y a des endroits où on prêche que quand on est un enfant de Dieu, on doit être en bonne santé et riche. Mais on est d'accord qu'on ne voit pas ça dans l'Écriture. Et on est d'accord que l'on voit dans l'Écriture beaucoup d'enfants de Dieu qui ont souffert, et même dans l'histoire, qui ont souffert. Donc Dieu permet au mal d'atteindre ses enfants. Et même quand il le permet, le mal n'agit, le mal arrive toujours dans le cadre de la volonté de Dieu et dans les limites que Dieu lui impose, hein. Vous vous souvenez de l'histoire de Job, n'est-ce pas, où Satan vient il veut attaquer Job et Dieu lui donne l'autorisation de le faire et lui dit jusqu'à la limite de sa vie. Alors, bien sûr, il est allé jusqu'à la limite, hein, mais il n'a pas dépassé la limite que Dieu lui avait fixée. Et donc, rien n'arrive sans, même quand Satan attaque, hein, il y a des gens qui sont omnibulés par le diable. Satan attaque partout. Oui, c'est le diable. Oh là là, ils sont tout le temps en lutte contre le diable. D'accord? Eh bien, il ne peut rien faire en dehors de ce que Dieu lui permet de faire. Et même dans ce qu'il fait, cela contribue au bien du chrétien, selon la parole que nous sommes en train de lire ici. Dieu peut empêcher les hommes de pécher. Il y a un exemple dans la Bible, on citait ça hier avec les frères, dans Genèse chapitre 20, lorsque Abraham part avec sa femme Sarah, il va à Guérar, et qu'il y a Abimélec, je crois qu'il s'appelle Abimélec, et qui est le roi du pays, il dit à sa femme, « Tu es belle, ma femme, les gens ils vont me tuer pour te prendre. » Il dit, « Alors fais-moi une grâce, tu dis que tu es ma sœur, et comme ça ils vont me laisser la vie sauve. » Ils arrivent, il dit que Sarah c'est sa sœur. Ah ben, qu'est-ce que c'est sa sœur? Bon ben, quelqu'un d'autre peut la prendre. Donc le roi, sa beauté est vantée auprès du roi, qui l'a fait prendre, etc. Et puis, bien sûr, Dieu frappe tout le pays de stérilité. Tout le pays de stérilité. Et dans un songe, il apparaît à ce roi. Et puis, il lui dit que cette femme a un mari. Et il dit, mais, je ne savais pas. J'ai agi en toute bonne conscience. J'ai agi en toute pureté dans cette affaire. Et Dieu lui dit, je sais. Il dit, aussi t'ai-je empêché de pécher contre elle. C'est un passage qui m'encourage. Dieu peut empêcher des hommes de commettre un péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils pêchent aussi, Dieu leur permet d'aller jusqu'à un certain point. Il est même au contrôle de cela. Il peut empêcher à un être, à un païen, Abimélec, de pécher, de commettre un péché. Il peut l'empêcher de commettre un péché tout le temps s'il veut. Et parfois, il le laisse faire. Et donc, Dieu agit de même dans la vie des enfants de Dieu. Il laisse parfois le mal atteindre les enfants de Dieu. Mais il peut produire lui-même aussi la chose. Il peut la laisser, l'empêcher d'arriver. Mais parfois, il peut produire même ce qui arrive. Je relisais dans le psaume 105 l'histoire du peuple d'Israël résumée où il est question de Dieu. Si vous lisez ce psaume, prenez le psaume 105 et si vous regardez ce psaume, c'est assez intéressant de voir que il y a beaucoup de il dans ce psaume. Il y a il en parlant de Dieu. Par exemple, je vais commencer au verset 16. Où il raconte l'histoire de Joseph, qu'on va voir tout à l'heure, mais il dit, il appela la famine sur le pays, la famine. Qui c'est qui appelle la famine sur le pays? C'est Dieu. D'accord? Il provoque. Voilà. C'est un mal pour le peuple, ça, quand la famine. Eh bien, Dieu appelle la famine. C'est pas le climat qui a fait que. C'est lui qui décrète, il y aura une famine ici. Et il l'amène, il l'appelle intentionnellement. Mais ce n'est pas tout. Il dit alors, après, il envoya, verset 17, devant eux un homme, Joseph, c'est lui qui envoie Joseph, on le voit, qui fut vendu comme esclave, etc. Et puis, il continue, je saute quelques versets. Il dit, alors Israël vint en Égypte. Donc Jacob, quand Jacob vient en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Dieu rendit donc son peuple très fécond, est plus puissant que ses adversaires. Et verset 25, il changea leur cœur, le cœur des adversaires. Donc Dieu change le cœur des adversaires pour qu'ils haïssent son peuple. Si j'ai bien compris le verset, il dit que Dieu a changé le cœur des Égyptiens d'une manière à les amener à haïr son propre peuple à lui. C'est ça que le passage dit. C'est ce que je crois, c'est ce qui est écrit. Donc Dieu peut lui-même changer les choses, produire une situation qui amène la haine contre son propre peuple. Et il le fait pour le bien de son peuple. Il le fait pour le bien de son peuple. Donc non seulement... Quand l'apôtre Paul dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment », il ne dit pas que les choses là, comme ça, ça se met plus ou moins bien, suivant la température, la pression, etc. Non, il dit que Dieu est particulièrement à l'œuvre, soit en laissant faire des choses, soit en agissant, soit en produisant lui-même les choses pour ce que nous ressentons comme bon ou mauvais, pour les faire travailler afin... qu'il obtienne le bien pour ses enfants. Alors, pensez à ce que Moïse dit au peuple d'Israël dans le désert. Il dit, je vous lis Deutéronome chapitre 8, il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, et puis il ajoute, il t'a fait souffrir de la faim. C'est Dieu qui t'a fait souffrir de la faim. Et ça veut dire que c'est ainsi que les enfants de Dieu doivent considérer les événements qui se passent dans leur vie. Ils ne doivent jamais les déconnecter de Dieu. En disant, c'est le diable, en disant, c'est un autre, en disant, c'est le patron, en disant, c'est l'État, etc. Il faut toujours considérer les choses en relation avec Dieu. Et on a un exemple de comment Dieu arrange les choses. On n'a pas le temps de voir tout ce développement, mais si vous avez lu le livre d'Esther, 30 minutes pour lire le livre d'Esther, pas beaucoup, vous pouvez le lire cet après-midi, eh bien, c'est un livre qui est particulier, parce que c'est un livre dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné. C'est le seul livre de la Bible, je crois, dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais dans lequel on voit Dieu à l'œuvre. Hein, dans ce livre d'Esther, qui est une jeune fille très belle, juive, déportée. Donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Perse, avec son oncle, hein, Mardoché, qui l'a prise. Elle est orpheline, ses parents sont morts, et lui, son oncle Mardoché, la prend comme sa fille. Et à un moment donné, dans l'histoire, la Bible nous raconte qu'elle devient la reine à la place d'une autre reine qui a voulu montrer son indépendance, etc. Vasti, et donc elle a été éjectée. Et ensuite, voilà, elle devient reine à la place. Et bien sûr, quelques temps après, bien il y a un homme qui s'appelle Aman, et le roi place Aman chef du gouvernement, premier ministre. Et cet homme développe une haine incroyable des Juifs. Il y avait, parce que le Mardoché qui était là, eh bien, cet homme avait fait, voilà, il était une loi qui disait que tout le monde doit se prosterner devant lui quand il passe tellement, il était extrêmement orgueilleux. Et bien sûr, Mardoché, le Juif déporté, ne se courbait pas quand Aman passait. Et la haine d'Aman a été extraordinaire, au point qu'il a mis tout un stratagème en place pour procéder à un assassinat de masse de tous les Juifs qui se trouvaient dans toutes les provinces. Esther, Mardoché est courant de cela, il informe Esther, il lui dit qu'il doit avoir une audience auprès du roi, parce que qui sait si c'est pas pour un temps comme cela que Dieu l'a placé là. Et à l'époque, on ne pouvait pas se présenter comme ça devant le roi. Il fallait être invité par lui. Et là, et donc, elle a dit, voilà, prier, jeûner, etc. Et puis, je vais voir ce que je peux faire. Et la Bible dit que Mardoché a eu des conseils entre-temps de sa femme, qui lui dit, ben, qu'est-ce que tu as à t'embêter avec ça, etc. Alors, tu fais... Il dit, ce Mardoché, là, tant qu'il ne va pas me saluer, c'est comme si tout ce que j'ai, par ailleurs, ça vaut rien. Et il veut la peau des Juifs. Et donc, il fait éditer une loi qui dit qu'il faut absolument les tuer. Il fait le roi tamponner, signer cela. Et la Bible dit que un jour, le roi a une insomnie. Il a une insomnie. Et il demande un livre. On ne lui amène pas Tintin ou etc. C'est ce qu'il demande. Il demande les archives, quoi. C'est comme si vous dites, ah, je suis fatigué, je ne vais pas aller, je vais à la bibliothèque. Je vais prendre les archives pour regarder ce qui s'est passé dans les temps qui a été... Non, vous prenez un livre avec un roman, quelque chose. Il demande les archives. Voilà. Les chroniques. On lui amène les chroniques. Qu'est-ce qu'il lit dans les chroniques? Qu'il y a un type qui s'appelle Mardoché, qui un jour a aidé à démanteler un complot contre lui-même, contre le roi. Et il dit, ah, est-ce qu'on a pensé à féliciter ou à honoré, comme on dit, à récompenser ce Mardoché? Et on lui dit non. Et au moment où il dit non, il y a Aman qui arrive qui est là quelque part, il dit, ah, j'entends du bruit, puis c'est Aman, il la ramène, et puis il dit, Aman, tiens, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Alors lui, Aman, dit, oh, qui d'autre que moi le roi veut honorer, n'est-ce pas? Et puis, on voit que le roi lui dit, bien, fais ça pour... Il dit tout un tas de choses, bien, le roi dit, fais ça pour Mardoché. Mais ce que nous faisons remarquer ici, ce sont les coïncidences, quoi. Il faut qu'à ce moment précis, quand cette loi a été décidée, que le roi ne trouve pas le sommeil, et qu'il demande les chroniques, d'accord? Les archives, quoi. On n'aurait pas demandé ça. Qu'il demande ça. Et qu'il tombe juste sur... Là où c'est écrit que Mardoché a démantelé un complot, et que Aman arrive au même moment, etc., toutes ces choses-là. Et que le bois qu'Aman avait fait déjà dresser pour pendre Mardoché, eh bien ce sera lui-même qui sera pendu là-dessus. Je veux souligner simplement ça, qu'on voit que comment Dieu fait coordonner les choses. Ce ne sont pas du hasard. D'accord ? L'insomnie est provoquée par Dieu. Le choix du livre est provoqué par Dieu. Le passage qu'il lit est provoqué par Dieu. Pour que cet homme soit extrait et que son peuple puisse être sauvé. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de voir ici que toute chose coopère. C'est pas simplement qu'elles sont mises les unes à côté des autres, mais les choses et leur contraire travaillent ensemble. Et ça veut dire qu'il y a Dieu derrière qui les fait travailler pour le bien de son peuple. On pourrait prendre encore l'exemple de Joseph, mais ce sera long. On a fait ça avec les frères hier. On voit tout ce qui s'est passé, la succession de choses qui s'est passé dans la vie de Joseph. Mais je veux juste souligner ce que Joseph lui-même dit en conclusion de tout cela. Dans Genèse chapitre 45, regardez avec moi Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Il dit à ses frères, on a lu ça je pense même la semaine dernière, hein, il dit à ses frères, ici, verset 3, quand il se montre à ses frères, donc si vous n'avez pas lu l'histoire de Joseph, bien il faut lire à partir du chapitre 37, vous lisez à partir du chapitre 37, et puis vous aurez un peu l'histoire jusqu'au chapitre 50. Et au verset 2, il est dit que Joseph se fait donc découvrir à ses frères. Et puis au verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Évidemment, hein, avec tout ce qu'ils ont fait avant, c'est pas évident. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu et mené en Égypte. Maintenant, il dit, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans le psaume 105? Il envoya, en disant que Dieu envoya son serviteur Joseph. D'accord. Et ici, Joseph dit, ici, vous m'avez vendu, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Regardez, il le dit au verset 7, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie et pour faire subsister le pays, et pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Il est en train de dire que Dieu m'a envoyé ici pour que vous puissiez avoir la vie physique, mais aussi pour vous faire vivre une grande délivrance. Il pense ici à la délivrance qu'ils connaîtront 400 ans plus tard. Comment on le sait? Bien, c'est ce qu'il dit au verset chapitre 50, il dit, Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays, et ne laissez pas mes os dans ce pays, partez avec. Donc, on voit qu'il a la connaissance de ce que Dieu va, va faire ici. Et au verset 50, regardez ce qu'il dit ici, chapitre 50, verset 20, et ça, c'est vraiment le verset qui montre vraiment comment Dieu œuvre avec les choses bonnes et les choses mauvaises. Chapitre 50, verset 20, dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal. » Je lis cela, ce verset dans une autre traduction. Il dit, « Vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'a pensé en bien. » C'est le même mot que le texte utilise à la fois pour les frères de Joseph et pour Dieu. Dans la ce que j'ai lu tout à l'heure, il dit, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et on allait dire que, voilà, Dieu a pris le mal que le peuple a fait, que les frères de Joseph ont fait, et puis il a transformé le mal en bien, et puis maintenant, le mal est devenu bien. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est le même mot, c'est, vous avez médité de me faire le mal, et Dieu l'a médité en bien. Autrement dit, il parle d'une seule et même action dans laquelle des hommes ont médité, organisé, fomenté de faire quelque chose. Ils ont organisé, utilisé toutes les situations pour faire quelque chose de mauvais. Et avec cette même situation, Dieu a pensé, organisé, fomenté pour faire quelque chose de bien. C'est ça qu'il dit ici. Et je vous lis ce que dit un commentateur qui s'appelle John Carson. Don Carson, il dit que ce raisonnement-là livre
toute sa profondeur quand on réfléchit à ce que Joseph ne dit pas. Joseph ne dit pas que ses frères auraient profité d'une inattention momentanée de Dieu pour le vendre en esclavage et que Dieu, en bon stratège, aurait rétabli la situation en faisant accéder Joseph au rang de premier ministre d'Égypte au moment voulu. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus que l'intention de Dieu était de faire descendre Joseph par un autre moyen, par un char providentiel, et que ses frères auraient malheureusement contrecarré ce plan, obligeant Dieu à réagir plus intelligemment pour faire aboutir son plan. Enfin, on pense comme ça, n'est-ce pas? On dit, voilà, peut-être c'est comme ça ça aurait dû se faire. Mais à cause du péché de l'homme, les choses se sont faites comme ça, et puis Dieu doit courir pour rattraper les choses, et puis finalement arriver au plan qu'il avait prévu initialement. Non! Non! Il dit que le chemin par lequel je suis passé, c'est le chemin par lequel Dieu a voulu que je passe. Vous l'avez pensé en mal. Ce chemin-là, c'est à cause de votre péché que j'y suis passé. Mais c'est à cause de la volonté de Dieu aussi que j'y suis passé. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, vous avez médité le mal avec une situation. Dieu a médité le bien avec la même situation. Alors, il dit ici, un seul événement, la vente de Joseph en esclavage, intervient, dans un seul événement, intervient deux parties, chacune animée d'une autre intention. Pour leur part, les frères de Joseph ont agi avec de mauvaises intentions. De son côté, Dieu a agi avec de bonnes intentions. D'accord? C'est Dieu, dit-il, qui m'a envoyé ici. C'est pas vous, il dit même, c'est pas vous. Mais néanmoins, vous êtes responsable de ce que vous avez fait. Donc on peut voir que ce ne sont pas les choses qui travaillent toutes seules, mais vraiment qu'il y a Dieu derrière qui les provoque même et qui travaille avec Dieu. La Bible enseigne clairement vraiment que Dieu ne fait pas le mal, que Dieu ne prend pas plaisir au mal et que Dieu ne peut pas être accusé de mal. Jacques il dit qu'il n'est pas tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais Dieu agit d'une certaine manière derrière le mal pour guider les choses et faire toutes choses correspondre à sa volonté. Et il nous faut croire parce que la Bible le dit. Il change le cœur du peuple pour qu'il haïsse son propre peuple. Et c'est lui qui le fait. Mais ils sont responsables. Ils sont totalement responsables pour ce qu'ils ont fait. Cela n'enlève en rien leur responsabilité et cela n'ajoute en rien le péché sur Dieu. C'est quelque chose que l'on doit maintenir en parallèle. Parce que la Bible le maintient en parallèle. Si on prend l'exemple de Jésus-Christ, eh bien, dans Actes chapitre 4, rappelez-vous la prière de l'Église qui demande à Dieu de leur donner de l'assurance. Ils disent, en effet, Actes 4, 27, « Contre ton saint serviteur que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ton conseil avait arrêté d'avance. » Il dit, il y a eu une coalition entre Hérode, entre Pilate, avec tout le peuple, pour faire le mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commis l'acte le plus ignoble que la planète n'a jamais connu. C'est de crucifier le juste, le Fils de Dieu. Ça, c'est l'acte mauvais par excellence. On dit, il y a des choses mauvaises qui se passent. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent dans le monde, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est la chose la plus ignoble. Crucifier le Fils de Dieu. Et pourtant, le passage dit ici, ils ont fait ce que ton conseil et ta main avaient arrêté d'avance. C'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, dit Ésaïe chapitre 53. Et en même temps, ils sont coupables de ce qu'ils ont fait. Lorsque Pierre prêche, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez renié le Christ. Vous avez crucifié. Il les accuse, hein. Il dit pas, vous n'êtes pas responsable, vous comprenez, bon, c'était, vous l'avez fait, mais comme pouvez-vous faire? Après tout, c'était la volonté de Dieu. Non, il dit, vous avez. Vous êtes responsable de ce que vous avez. C'est un péché. Mais en même temps, il dit, c'est le plan de Dieu. Ça nous échappe, mais il nous faut l'accepter. Que Dieu fait concourir toutes choses, le bien, le mal, le péché même des hommes. Il fait travailler ces choses pour le bien de ses enfants. Pour le bien, je voudrais terminer là-dessus. Toute chose coopère par l'action souveraine et providentielle de Dieu, mais pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bien? Il est certain que Paul n'a pas dit ici que toute chose travaille ensemble pour que celui qui aime Dieu se sente bien. C'est pas ce qu'il dit. Il travaille pour le bien. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que toute chose travaille ensemble pour que ceux qui aiment Dieu n'aient pas mal. Ou pour qu'ils soient riches. Ou pour qu'ils soient en bonne santé. Ou pour qu'ils soient mariés. Ou pour qu'ils aient des enfants. Ou pour qu'ils soient appréciés des autres. C'est pas ça le bien. C'est pas ça le bien. Il ne s'agit pas ici de bien matériel. Même pas de bien présent. Et il faut le savoir. Sinon, on court de désillusion en désillusion. Ici. Le verset suivant nous indique ce que le bien veut dire. Gardons encore Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et au verset 28. Je relis Romains 8, verset 28. Donc nous lisons, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voici ici le bien suprême auquel Dieu travaille. Quel est ce bien? C'est de rendre ce qu'il a racheté semblable à l'image de son Fils. Toute ambition qui se situe en dessous de ça, on peut le mettre à la poubelle. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas le bien que Dieu recherche. La bonne santé n'est pas le bien que Dieu recherche. Un bon travail n'est pas le bien que Dieu recherche. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien ces choses-là. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ce sont des biens, mais ce n'est pas à ce bien-là que Dieu fait concourir toutes les choses. Parce que parfois on a des enfants, c'est pas forcément, on n'expérimente pas des choses qui sont forcément bonnes. La mort, la maladie, la désobéissance, toutes ces choses viennent frapper toutes les familles. Et donc ce ne peut pas être cela qui soit le bien auquel Dieu fait concourir toutes choses. Le bien qui est poursuivi par Dieu et qui est son but, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, afin que chaque croyant reflète la gloire de Christ. Paul dit dans Colossiens, je crois, il dit, ce à quoi je travaille, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà à quoi il travaille. Il dit, je travaille à ça. Il dit pas, je travaille pour que les chrétiens soient heureux, qu'ils aient une grande maison, qu'ils aient 3-4 voitures, qu'ils aient une garde-robe comme ceci, qu'ils aient des enfants, qu'ils soient tous mariés parce que Dieu a dit, là, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et c'est pas ça à quoi il travaille. Il dit, je travaille à ce que Christ soit formé en eux. Et je travaille à ce que je puisse présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et ça, c'est le plan de Dieu lui-même. C'est le dessein de Dieu que l'on voit ici. Quel est le dessein de Dieu? Quel est le bien suprême? Le bien auquel Dieu, pour lequel Dieu intervient de manière souveraine sur tous les événements de la planète. C'est pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Voilà donc ce à quoi on doit penser quand on pense au bien. Et quand les difficultés sont là, eh bien, on doit penser, Dieu est en train d'œuvrer à ma transformation, à l'image de Christ. Et il ne saurait échouer dans ce plan-là. Il ne va pas échouer. Parce que la Bible dit, Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc là, chers frères et sœurs, la ressemblance à Christ est le bien que Dieu poursuit. C'est la motivation pour laquelle toute sa puissance souveraine et providentielle est engagée dans ce monde-là. Donc les bonnes choses, comme les mauvaises, la santé comme la maladie, les bonnes, les succès comme les chutes, les joies comme les peines, les mariages comme le célibat, la vie comme la mort, utilisées par Dieu pour nous amener à cette fin. Et quand on lit l'histoire de Joseph, il dit la même chose. Il dit, Dieu m'a fait venir ici. Joseph a été, la Bible, le psaume 105 dit qu'il a eu les chaînes aux pieds, on lui a mis des chaînes, des fers, il était en prison. Vous savez, on disait avec les frères, vous savez combien de temps a duré la dernière fois que vous avez vu ses frères jusqu'à ce qu'il les revoie? 22 ans! 22 ans, loin de sa famille. Il a donné à ses fils des noms pour exprimer la souffrance qu'il avait d'être éloigné de la maison de son père. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 41. Il a souffert 2 ans en prison de plus parce que quelqu'un d'autre a oublié de parler de lui au roi. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, pourquoi? Pour que Joseph soit, in fine, le numéro 1 en Égypte ou numéro 2 en Égypte? Non! Ça, c'était qu'une étape. Parce que lui-même, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous afin d'opérer, de vous faire vivre là maintenant et d'opérer une grande délivrance. Une grande délivrance. C'est ce qu'il dit en Genèse chapitre 45. Et il dit plus tard, et quand Dieu va vous visiter, 400 ans plus tard, c'est pas la même échelle, hein. Il y a eu des morts et des naissances et des morts et des naissances en 400 ans, hein. Il y en a eu. Eh bien, ce plan de délivrance qui est la sortie de l'Égypte, et qui est l'image même de la rédemption dont on a parlé aujourd'hui. La sortie d'Égypte, c'est la rédemption, c'est l'évangile qu'on voit ici, ce que Christ opère. Eh bien, pour que ça se produise, il a fallu attendre 400 ans. Mais Joseph leur a dit, quand Dieu va le faire, ramenez mes os de là-bas. Donc, il pensait à cette délivrance-là. Dieu m'a fait passer par tout cela pour opérer cette délivrance-là. Et Dieu nous fait passer par différentes expériences, parfois douloureuses, mauvaises pour nous, pour nous transformer à l'image de son Fils et nous faire connaître cette merveilleuse délivrance qui est la rédemption de notre corps que nous attendons. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc quand nous considérons, chers frères et sœurs, les situations dans notre vie, eh bien l'apôtre Paul dit, nous devons dire une chose, nous savons. Il faut faire appel à ce que nous savons, pas ce que nous ressentons, pas à la douleur, pas au mal, pas à la tristesse que ça éprouve. Il faut faire appel à ce que l'on sait de la vérité, que Dieu, en souverain, sage, agit dans toutes les choses, avec une sagesse infinie, infinie, pour nous transformer à l'image de son Fils. Ce qui est le plus grand bien qu'un être puisse connaître. Imaginez cela. Comme quelqu'un disait, de coupable que nous étions, il nous rend glorieux à l'image de son Fils. Je voudrais juste terminer avec ceci et dire que, fort de tout cela, nous ne devons pas d'accord, pester contre les situations dans lesquelles Dieu nous met. D'accord. Et Quand un frère ou une sœur nous offense, eh bien, comme Joseph, qu'est-ce qu'on doit arriver à faire? À pardonner. Joseph ne leur a pas fait de reproche. Il a juste dit, vous m'avez vendu, mais il dit, mais c'est Dieu qui... Quand la conscience que c'est Dieu qui œuvrait dans toutes ces choses a poussé Joseph à pardonner à ses frères, avant même qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Il avait déjà une disposition de cœur qui pardonne, parce qu'il sait que Dieu est à l'œuvre dans toutes ces choses. Parfois, on ronge nos frères, on reste avec de la rancœur contre des gens, même des frères et sœurs dans l'église, parce qu'ils ont fait quelque chose ou ils ont dit quelque chose. Peut-être, mais Dieu utilise cela pour œuvrer à notre sanctification et nous amener à l'image de son Fils. Donc soyons prêts à l'accepter et aussi à pardonner. À pardonner. Le fait de savoir que Dieu œuvre de cette manière-là doit nous amener à l'humilité, à l'adoration, et puis au fait aussi de, eh bien, à l'amour aussi les uns pour les autres. Nous pardonner dans les faiblesses que nous pouvons avoir les uns à l'égard des autres. Je voudrais dire aussi que la certitude que l'Évangile donne est sur la fin des choses et non sur leur manifestation présente. C'est là que doit porter notre regard. Comme dans le psaume 73. Le psaume 73, le psalmiste Asaph, il dit, il était troublé parce qu'il regarde, il voit le celui qui ne suit pas Dieu, il est bien. Il a des enfants, son travail, il a de l'or, il est couvert d'or, il marche, il a de l'embonpoint, tellement il mange bien ici. Et puis il dit, mais à quoi ça m'a servi de suivre Dieu? Et puis lui, il est dans la souffrance. Et il réfléchit, il dit, ses pas étaient sur le point de tomber. Ça, il en perdait la raison, tellement c'est incompréhensible que Dieu puisse laisser le méchant prospérer. Et puis celui qui le sert, eh bien, a l'air miséreux. Et vous savez ce qu'il dit à la fin? Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, psaume 73, verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ah! C'est ce que Paul dit. Il dit que Dieu œuvre avec toute chose pour le bien, c'est-à-dire le bien qui est loin, il est loin, le sort final. C'est là qu'on doit apprendre à regarder pour être encouragé. Pas dans ce que l'on voit dans la vie présente, où on voit le corps se déplier, où on voit des manquements, où on voit ce qu'on a envie d'avoir et qu'on n'a pas, on voit que les autres l'ont et nous, on l'a pas. On est chrétien, on fait des efforts, et puis les autres, ils n'en font aucun effort, ils injurient, ils font tout, et puis ils sont bien, ils sont mieux que nous. C'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder au sort final. Et tout ce que les gens font dans le monde, c'est, il nous amène à regarder à ce qui est juste là maintenant. Ah, tu dis que Dieu, il est bon. Mais pourquoi toute cette souffrance qu'on voit dans le monde? Pourquoi le coronavirus? S'il est bon, pourquoi il n'enlève pas? Moi, un Dieu bon, mais vous savez qu'il fait? Il enlève ça. S'il n'enlève pas, c'est qu'il n'est pas bon. Et s'il est bon qu'il n'enlève pas, c'est qu'il n'est pas puissant. Voilà ce que les gens disent. Et ils disent, moi, je ne crois pas en Dieu. Le problème du mal, c'est 1755, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne. Entre 50 et 70 000 personnes, à l'époque de Voltaire. Et c'est là que Voltaire, c'est après ça que Voltaire a écrit son livre, s'appelle Candide. Où il remet en question en fait de la bonté de Dieu et le fait qu'on puisse considérer que Dieu est permet le mal. Voilà. Chaque fois qu'il y a des événements catastrophiques qui se passent, les hommes remettent en question, n'est-ce pas, la bonté de Dieu et le fait que Dieu gouverne toutes choses. Mais la Bible nous dit, ne regarde pas juste là, regarde là-bas. Et c'est ce que l'Évangile nous pousse à faire. Ce n'est pas un déni des réalités. On accepte cette réalité-là. Mais on sait, on ne sent pas la réalité. On sent la souffrance, on sent le coronavirus, on sent le rhume, on sent le nez qui coule, on sent la respiration qui manque. C'est ça qu'on sent. Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu fait travailler toutes choses pour la transformation de chaque croyant à l'image de son fils Jésus-Christ. Et c'est ce que l'on doit désirer le plus fort possible dans notre cœur. Je voudrais juste dire une parole pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Eh bien, si Dieu fait travailler toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, quand viendra la fin, ceux qui ne l'aiment pas ne connaîtront pas le bien. Et ça sera le désastre. Et donc ce passage nous appelle aussi à placer notre confiance en Jésus-Christ. Parce que tant que nous sommes vivants et que nous entendons le message de l'Évangile, eh bien nous pouvons placer notre confiance en Jésus-Christ. Et vous pouvez venir à lui. C'est lui qui nous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et quand l'apôtre Paul parle ici aux Romains, il parle pour que ces Juifs à qui il écrit, pour que ces Juifs puissent mettre leur confiance, qu'ils aient de l'intelligence dans leurs ailes, qu'ils puissent mettre leur confiance en Jésus-Christ. Lisez le chapitre 8, vous allez voir comment il parle de ce fait d'avoir l'Esprit de Christ pour lui appartenir. Donc, c'est une invitation à venir aussi à Jésus-Christ et être au bénéfice de cette œuvre, de cette coordination magistrale que Dieu, dans sa souveraineté, organise pour transformer à travers tous les événements de la vie ses enfants à l'image de son Fils. Et nous savons que toutes ces choses concourent vraiment et travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire. Merci pour ta sagesse et ta puissance, ta souveraineté avec laquelle tu fais œuvrer le bien comme le mal qui nous atteint à notre perfection. La parole dit même que parfois tu nous châties pour nous rendre participants de ta sainteté. Et nous te remercions pour ces choses. Donne-nous de lever les yeux vers toi. Donne-nous de ne pas rechercher les sensations, les sentiments, mais de nous appuyer sur ce que nous savons de toi, sur ce que tu nous révèles dans ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous avons lu que, Seigneur, celui qui connaît ta parole, eh bien, il sera affranchi. Nous te prions vraiment, Seigneur, pour que tu nous donnes de la lire en cette année qui vient, de la méditer, de ne pas nous laisser imbiber par ce que nous pouvons entendre du monde avec ses solutions, mais que nous puissions nous nourrir de cette parole, qu'elle puisse faire la joie et l'allégresse de notre cœur, pour qu'au temps où la difficulté sera là, eh bien, ces paroles puissent revenir à notre esprit. Que tu travailles à faire toute chose concourir à notre bien. Nous te louons. Béni sois-tu. Amen.